Cours M4 MA004, séance 8, financement de la culture. Deuxième partie, le rôle des collectivités territoriales dans le financement public de la culture. La montée en puissance des collectivités territoriales dans le financement public de la culture depuis la fin des années 70 avait provoqué des attitudes contrastées dans les milieux culturels entre ceux qui y voyaient une opportunité de développement et ceux qui craignaient une forme d'enrôlement, de mise sous tutelle de la création par des intérêts locaux. Aujourd'hui, c'est une autre inquiétude qui domine les milieux culturels, c'est la stagnation, voire le recul de ces financements. Un certain nombre de collectivités territoriales faisant de la culture finalement une variable d'ajustement dans des budgets qui sont de plus en plus contraints. Alors la question de la décentralisation, puisque c'est de ça dont on parle, doit être posée et a été reposée finalement d'une certaine façon par les lois récentes, les lois notamment la loi portant une nouvelle organisation territoriale de la République, c'est la loi NOTRe du 7 août 2015, et également la loi CAP relative à la liberté de création du 7 juillet 2016, qui indique que la culture est une responsabilité partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Selon la loi du 7 août 2015, donc cette fameuse loi NOTRe, la politique culturelle est une responsabilité conjointe de l'État et des collectivités territoriales, comme le sport, le tourisme, la promotion des langues régionales et l'éducation populaire, la culture est une compétence partagée des communes, des départements, des régions, des collectivités à statut particulier. L'investissement des collectivités locales dans la culture résulte à la fois de compétences obligatoires et d'engagements volontaires. Dans la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, il est prévu que l'État, les collectivités et leurs groupements et les établissements publics définissent et mettent en œuvre une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique. Cette concertation a notamment pour cadre la conférence territoriale de l'action publique, qui doit comprendre au moins une commission thématique dédiée à la culture. Par ailleurs, la loi de 2016 dessine une politique publique qui reconnaît la diversité des initiatives, notamment associatives, en imposant au ministère de la Culture de consulter les collectivités territoriales concernées avant d'attribuer des labels ou d'établir des conventions avec des structures culturelles. Alors, selon un rapport du département des études de la prospective et des statistiques, le DEPS, dont je rappelle qu'il est un service du ministère de la Culture, un rapport de 2017, mais qui en réalité utilise des chiffres plus anciens, qui remontent à 2014, 9,3 milliards d'euros de dépenses culturelles ont été réalisées par les collectivités territoriales, dont plus de trois quarts à l'initiative du bloc communal, c'est-à-dire les communes et les intercommunalités. Les départements prenant pour leur part en charge 15% de cette dépense publique en faveur de la culture et les régions 8%. Selon ce rapport du DEPS, plus de la moitié de ces dépenses, 56% exactement, sont consacrées au soutien de l'expression artistique et aux activités culturelles, spectacles vivants, arts visuels, enseignement artistique. Le reste étant destiné à soutenir la conservation et la diffusion du patrimoine, donc c'est le financement des musées, des archives, des bibliothèques. Du fait de la baisse, en tout cas entre 2012, 2013 et 2016, des dotations de l'État, les communes et intercommunalités, les collectivités territoriales dans leur ensemble d'ailleurs, ont revu à la baisse leurs dépenses culturelles, tout en considérant que ces investissements sont des leviers de l'attractivité du territoire. Globalement, les dépenses départementales ont plutôt eu tendance à diminuer, tandis que les dépenses communales et intercommunales surtout ont eu tendance à se renforcer. région ont également renforcé leur budget tant de fonctionnement que d'investissement, ce qui témoigne d'un souci d'affirmer vraiment un rôle sur la scène des politiques culturelles. Alors cette publication en 2017 de l'enquête du DEPS a pu faire surgir, enfin a pu faire surgir deux images contradictoires ou a pu être l'objet de deux interprétations contradictoires. Première interprétation, celle d'une progression substantielle de cette dépense publique des collectivités territoriales en faveur de la culture, puisque l'enquête précédente, qui datait de 2010, avait mis au jour une dépense publique des collectivités territoriales en faveur de la culture de 7 milliards 600 millions d'euros. Donc on passait de 7 milliards 600 millions à 9 milliards 300 millions, ce qui montrait effectivement cette augmentation importante au niveau global. Deuxième interprétation, deuxième regard, montrait justement des différences entre les collectivités territoriales, les communes, les intercommunalités ayant fait progresser leurs dépenses, tandis que les départements avaient eu tendance à les diminuer. Donc c'est important de mesurer, disons, les contrastes entre les différents types de collectivités territoriales. J'y reviens dans un instant en détaillant ces dépenses selon les catégories de collectivités territoriales. Auparavant, je voudrais faire état d'une autre enquête qui est plus récente, qui a été publiée en 2019 par l'Observatoire des politiques culturelles, l'OPC, une enquête réalisée avec l'appui du ministère de la Culture, sur l'évolution des dépenses culturelles des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette enquête présente des résultats relatifs à l'évolution des dépenses culturelles des collectivités entre 2017 et 2018, tant sur le fonctionnement que sur l'investissement. Et elle propose également une projection des intentions sur l'année suivante. L'échantillon est assez vaste, 140 collectivités de plus de 20 000 habitants, 9 régions, 48 départements, 7 métropoles, 14 communes de plus de 100 000 habitants ont répondu au questionnaire de l'Observatoire des politiques culturelles. Alors sur cet échantillon, en 2018, 56%, donc plus de la moitié des répondants déclaraient augmenter leur engagement, leur effort donc financier en faveur de la culture, un tiers annonçait réduire leur effort et 10% environ affichaient une stabilité. Les évolutions donc, des dépenses culturelles de fonctionnement et d'investissement sur les années 2017-2018 révèlent une dynamique plus favorable pour la culture qu'au cours des années précédentes, donc au cours de cette fameuse période, quelques années entre 2012-2013 et 2016, où là il y a eu un véritable trou d'air, non seulement au niveau des dépenses de l'État, mais aussi des collectivités territoriales. Pour certaines d'entre elles en tout cas. Donc globalement, tous niveaux territoriaux confondus, l'évolution des dépenses culturelles tend à s'améliorer. Les augmentations concernant plus particulièrement l'éducation artistique et culturelle, et on retrouve là donc au niveau local une préoccupation que l'on trouve également au niveau central, l'éducation artistique et culturelle qui est devenue une priorité commune à tous les niveaux d'administration. Alors, il faut donc détailler un petit peu, distinguer selon les niveaux, selon les types, selon les catégories de collectivités. Je vais commencer par les communes et les regroupements de communes. En m'appuyant sur l'article de Guy Saez, donc dans les cahiers français 2019, qui utilise les données les plus récentes, et qui souligne l'écart creusé entre les dépenses de ce qu'il appelle le bloc communal, donc les communes et les intercommunalités, à l'égard de tous les autres financeurs, que ce soit l'État central ou les autres collectivités territoriales, départements ou régions. Par rapport au ministère de la Culture, les villes ont depuis quelques années déjà une contribution deux fois plus importante. Bon, il n'est pas entièrement légitime de comparer ces deux contributions, d'autant qu'une partie de celle du ministère, en fait, abonde directement les budgets des villes, mais il y a quand même un contraste fort, disons, entre la part des villes dans le financement public de la culture et la part de l'État central, ce qui génère évidemment des tensions, disons, ou en tout cas des contestations de la part des élus locaux envers l'État, d'une part des revendications d'avoir davantage de financement de l'État, mais aussi des revendications de contrôler, de piloter davantage à l'échelon local les politiques culturelles, puisque ce sont essentiellement les villes, encore une fois, qui les financent. Pour ce qui est des professions culturelles, l'importance acquise par les villes, hein, en matière de financement de la culture provoque une forme de malaise. Certains milieux culturels réclamant de la part de l'État une plus grande intervention pour les protéger des changements de majorité et plus généralement des foucades des élus locaux pour éviter d'être en tête-à-tête en quelque sorte avec des bailleurs de fonds qui seraient. Disons, liés à des intérêts politiques locaux, donc demandant finalement une forme de protection à l'État. Et puis il y a d'autres milieux culturels qui ont appris à travailler avec les collectivités locales et avec les villes en particulier, et qui, au contraire, sont dans une forme de dialogue, de partenariat donc avec ces collectivités, et au point parfois de rejeter la culture. Hein, institutionnel du ministère. Alors, dans ces communes, on peut distinguer une catégorie particulière qu'on appelle les métropoles. Au 1er janvier 2019, il existait, puisque je pense que c'est à peu près pareil en 2020, 21 métropoles, 19 métropoles de droit commun, donc des villes comme Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, deux métropoles à statut particulier, Aix-Marseille et le Grand Paris. La métropole de Lyon, qui a été créée par une loi en 2014, est un cas particulier puisqu'il s'agit en fait d'une collectivité territoriale à statut particulier et non d'une intercommunalité. Alors, appelées à occuper une part croissante dans le financement de la culture, ces métropoles s'inscrivent dans une tendance globalement à la hausse, tant du côté du fonctionnement que de l'investissement. 5 métropoles sur les 7 de l'échantillon augmentent leurs moyens affectés à la culture en fonctionnement. L'augmentation des moyens accordés à la culture par les métropoles peut provenir, dans certains cas, d'une prise en charge d'éléments transférés par les communes. Par ailleurs, une hausse globale du budget peut masquer des baisses non négligeables selon les secteurs. Les métropoles se sont montrées particulièrement réceptives au mouvement en faveur de l'entrepreneuriat culturel qui s'est intensifié depuis quelques années. Et à côté des domaines traditionnels d'intervention dont elles peuvent hériter dans le cadre des transferts de compétences notamment, nombre d'entre elles se sont engagées dans une perspective plus économique ou économiciste de la culture, donc économie sociale et solidaire, industrie culturelle et créative, développement des clusters, développement de certaines filières. Ces nouvelles orientations qui donc génèrent de nouvelles charges et correspondent à une extension du périmètre d'intervention en matière culturelle ont pu entraîner par ailleurs des baisses de moyens alloués au fonctionnement d'équipements ou de subventions traditionnellement accordés aux associations. Donc il y a une forme de vase communicant, si vous voulez, à moyen constant. Si de l'argent est mis sur de nouvelles missions telles que ce développement de la culture à des fins économiques, eh bien des financements qui étaient autrefois attribués à des collectivités, à des associations, par exemple, sont en baisse. Alors côté investissement, 2017 avait fait apparaître un recul assez significatif. La tendance est plutôt à la hausse en 2018, avec 5 métropoles qui augmentaient leurs dépenses, parfois jusqu'à 100%, plus de 100% pour certaines d'entre elles. Les montants consacrés à la culture restent relativement disparates hein, d'une métropole à une autre, ce qui renvoie d'une part à la différence des moyens que peuvent dégager ces métropoles, mais aussi à des choix politiques différents qui sont opérés. En moyenne, les métropoles de l'échantillon de l'enquête consacrent 3,2% de leur budget total à la culture. Meggy Saez insiste sur le fait qu'il faut garder à l'esprit qu'une part significative de la stratégie culturelle des métropoles peut se décliner à travers d'autres champs d'intervention, en particulier dans le cadre de politiques foncières, de politiques économiques, de politiques de transport et de projets urbains. Une autre catégorie qui est détaillée également dans cette enquête de 2019 de l'OPC, c'est la catégorie des villes de plus de 100 000 habitants. 71% des villes de plus de 100 000 habitants ont augmenté leur budget culturel de fonctionnement entre 2017 et 2018, pour seulement 21% qui les ont réduits. Ces évolutions varient dans une fourchette de moins 7% à plus 18%. Au regard des précédentes enquêtes, donc une dynamique plus favorable à la culture semble apparaître du côté des grandes villes. Cependant, la mise en perspective avec les tendances de 2017 doit être effectuée avec précaution, rappelle Guy Saez. Les hausses constatées ne couvrent pas nécessairement l'augmentation mécanique des charges de personnel des équipements qui sont en régie et qui constituent le poste de dépense le plus important des villes. Parmi les domaines qui bénéficient plus fréquemment de hausses de la part des villes, les plus grandes villes, on peut citer les musées, le patrimoine culturel, les bibliothèques, les établissements d'enseignement artistique, le spectacle vivant. Les grandes villes de l'échantillon consacrent à la culture entre, donc les villes de plus de 100 000 habitants consacrent à la culture entre 9,3% et 21,2% du budget global à la culture, ce qui est vraiment considérable, hein. C'est plus important que les métropoles et c'est bien, bien plus important évidemment que le budget de l'État. Je rappelle, le budget de l'État pour le ministère de la Culture, en tout cas, c'est 1%. Là, on est à entre 9,3 et 21,2% du budget de ces grandes villes en faveur de la culture, ce qui souligne évidemment leur rôle majeur dans le financement du secteur. Dans l'appréciation du poids des dépenses culturelles dans les budgets généraux des grandes villes, il convient également de tenir compte du degré d'intégration intercommunale de chacune des villes, les transferts d'importantes compétences municipales ayant tendance à réduire le montant total des dépenses, hein, puisqu'il y a une répartition finalement de ces dépenses sur l'ensemble de l'intercommunalité. Je passe maintenant aux régions. Alors, du fait de sa compétence sur la formation professionnelle, la région organise l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique, dans le domaine du spectacle vivant. Elle peut participer également au financement hein, de cet enseignement supérieur spécialisé. Elle peut aussi adopter un schéma régional de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse, de l'art dramatique. La région joue également un rôle en matière de patrimoine, de préservation des langues régionales. La loi MAPAM ou MAPTAM de 2014, loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, donc MAPAM ou MAPTAM, permet aussi à l'État de déléguer certaines de ses compétences aux régions, ce qui permet, ce qui permet une rationalisation des interventions publiques dans les industries culturelles et créatives, dans, par exemple, la filière du livre ou celle du cinéma. Alors, pour aider à situer l'engagement des régions, il faut mentionner les crédits culturels déconcentrés du ministère de la Culture au niveau des directions régionales des affaires culturelles, les DRAC, s'élevaient à 860 millions d'euros en 2018, une hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Mais les crédits déconcentrés ne recouvrent pas la totalité des crédits engagés par les ministères de la Culture en région, puisqu'il faut ajouter les crédits directement dégagés par l'administration centrale. Alors, il y a un écart, hein, entre Paris et la province, entre même Paris, Île-de-France et les autres régions. Depuis longtemps, ça ne s'est pas résorbé. Ça continue d'alimenter une irritation, une forme de tension entre les élus locaux, les professionnels également, et le ministère de la Culture, dont est souvent dénoncée la trop faible implication financière auprès des collectivités. Guy Saez, dans son article de 2019, mentionnait cette interpellation d'un député de Bretagne qui s'étonnait, dans une question au ministre de la Culture, que la Bretagne ne reçoive que 2% des crédits ministériels alors qu'elle représente 5% de la population française. Là où l'Île-de-France, 18% de la population française, recevait 68% des crédits du ministère, des crédits déconcentrés du ministère. Donc une situation sans commune mesure avec celle des autres régions, mais qui est évidemment due à la concentration à Paris et Île-de-France de beaucoup d'équipements culturels, de beaucoup d'institutions culturelles de premier plan, au rayonnement national ou international, ce qui évidemment mécaniquement renforce les besoins et les dotations budgétaires. Alors la part que consacre l'État dans chaque région varie fortement, indépendamment de l'Île-de-France, hein. Une étude menée par plusieurs agences culturelles régionales en 2013 situait la participation de l'État à 12% pour la Nouvelle-Aquitaine, 17% pour le Poitou-Charentes, 10% environ pour la Provence-Côte d'Azur, 15% pour la Lorraine, et également pour 15% pour Rhône-Alpes. Donc c'était avant la création des nouvelles super régions, hein. Mais ça donne une idée, disons, des différences. La disproportion, en fait, affecte les différentes régions et les différents équipements culturels selon des logiques où se combinent le poids de l'histoire, le statut des labels, la personnalité des négociateurs. On observe par exemple que les centres dramatiques nationaux sont beaucoup mieux lotis que les opéras. L'opéra, on a une forte concentration de la dotation budgétaire en faveur de l'Opéra de Paris, alors que les opéras en région, ce que reçoivent les opéras en région, ça correspond au mieux, oui, ça correspond à environ 20, au total 20% du budget national pour la lyrique. Donc 80% du budget national pour la lyrique va en réalité à l'Opéra de Paris. Donc là, on a une énorme disparité évidemment entre Paris et les autres régions. Paris, Île-de-France et les autres régions. En ce qui concerne la politique des régions, maintenant proprement dit, l'implication accrue de la grande majorité des régions en faveur de la culture se confirme dans cette enquête de l'OPC, l'Observatoire des politiques culturelles. L'examen des différents domaines artistiques et culturels fait apparaître des crédits en progression pour ce qui concerne le patrimoine culturel, les musées, les festivals, les événements, le spectacle vivant, et donc des dépenses qui vont avant tout aux associations, aux organismes culturels. Une seule région de l'échantillon diminue ses dépenses culturelles, 6 régions sur les 9 s'inscrivent dans une dynamique de hausse. Sur une temporalité plus longue, l'implication accrue de la grande majorité des régions en faveur de la culture se confirme. Une étude menée par l'organisme Régions de France à partir des comptes administratifs et des budgets des régions indique que ces régions consacrent en 2018 plus de 800 millions d'euros à la culture, répartis en budget de fonctionnement et budget d'investissement, 523 millions et des poussières pour le fonctionnement, 287 millions et d'autres poussières pour l'investissement. Donc, ils sont deux budgets qui sont en hausse, hein, sur 10 ans, sur 2008-2018, hein, en hausse respectivement de 15% pour les dépenses de fonctionnement, 58% pour les dépenses d'investissement. Une indication précise des orientations culturelles des régions peut être donnée donc par l'examen de leur budget. Certaines de ces régions, je pense aux Hauts-de-France ou au Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine également, affichent des augmentations assez considérables de leurs dépenses culturelles ces dernières années. Alors, j'en viens maintenant au département. Tout en soutenant l'organisation des manifestations culturelles et la création artistique, les départements sont plutôt responsables et consacrent l'essentiel de leur budget aux bibliothèques, aux services d'archives, aux musées également. Donc plus généralement, c'est tout ce qui est conservation du patrimoine. La disparité des politiques culturelles départementales reste d'actualité en 2018, selon l'enquête de l'OPC, avec une légère amélioration de leur effort par rapport à 2017. Mais grosso modo, sur les années récentes, sur les 10 années précédentes, on observe quand même une diminution relative des dépenses des départements en faveur de la culture. Une partie des départements, c'est la remarque que fait Guy Saez dans son article, tente de redonner du sens à leur action à travers un accompagnement actif des nouveaux territoires intercommunaux dans l'élaboration de leurs projets culturels. S'ils sont souvent contraints budgétairement par leurs dépenses sociales obligatoires, les départements ont ainsi tendance à repositionner leur action du côté d'un appui technique de leurs services culturels à des collectivités ou à des groupements de plus petite taille qui ne disposent pas de la même compétence, de la même expertise, de la même ingénierie pour développer leur intervention culturelle. Pour les différents domaines artistiques et culturels, la majorité des départements de l'échantillon privilégie la stabilité. L'effort est porté donc en priorité sur l'éducation artistique et culturelle. Les effets de la contraction des budgets culturels départementaux dans la première moitié des années 2010 continue de se faire sentir. Il y a quand même un différentiel important entre l'effort consenti par le département en matière culturelle et l'effort des régions qui est en hausse, et surtout l'effort des communes et intercommunalités. On est aux alentours de 1,9% du budget des départements consacrés à la culture. C'est donc beaucoup moindre que celui des grandes villes et même des régions. Alors, pour finir et pour conclure cet examen des collectivités, de l'effort public, de l'effort des collectivités territoriales en matière de dépenses culturelles, il faut remarquer que les évolutions doivent être considérées au regard d'un contexte marqué par justement la création de nombreuses intercommunalités ces dernières années. Mais aussi des objectifs affichés pour contenir les dépenses de personnel des collectivités, pour limiter l'endettement des collectivités territoriales, qui avait eu tendance ces dernières décennies à grimper en flèche. Il y a un nouveau pacte financier entre l'État et les collectivités qui a été passé en application de la loi du 22 janvier 2018 sur la programmation des finances publiques. Et cette loi donc de 2018 fixe l'objectif national d'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités locales et de leur regroupement à 1,2% par an sur la période 2018-2022. Donc les collectivités territoriales et leurs regroupements ne doivent pas voir augmenter leurs dépenses au-delà de 1,2% par an. Alors là encore, hein, évidemment, c'était avant la situation que nous connaissons actuellement, avant les événements qui ont frappé la France et la plupart des pays du monde. Et donc, il faudra voir dans les mois qui viennent si les collectivités territoriales vont augmenter leur effort pour soutenir le secteur culturel ou considérer que ce secteur culturel n'est pas prioritaire par rapport à d'autres et diminueront leur effort. Donc c'est un peu tôt évidemment pour en parler, mais en principe et jusqu'à nouvel ordre, donc on est toujours sur cette loi de 2018 qui impose un cadre aux finances des collectivités territoriales, donc qui les empêche d'augmenter de plus de 1,2% par an leurs dépenses. L'impact pour la culture de ce contrat de maîtrise de la dépense publique, en tout cas, c'est comme ça qu'il a été perçu quand il a été, quand la loi a été votée, donc il y a 2 ans, a été perçu négativement. C'est-à-dire que, notamment au niveau des villes, qui assument la majorité de l'effort des collectivités publiques, qui doivent faire face à des dépenses contraintes de fonctionnement qui augmentent chaque année plus vite que ce taux de 1,2%, il y avait là donc matière, disons, à une tension supplémentaire sur les dépenses que pouvaient consentir les collectivités territoriales. Le principe de compétences partagées, ce sont des questions que propose Guy Saez à la fin de son article, donc dans les cahiers français. Le principe de compétences partagées inscrit dans la loi entre l'État et les collectivités territoriales permettra-t-il d'élaborer des solutions convergentes entre les politiques culturelles des collectivités publiques à l'échelle territoriale? S'il est fréquemment invoqué dans les débats actuels, force est de constater que les conférences territoriales d'action publique pour la culture, qui devraient avoir vocation à organiser le rapprochement des pouvoirs locaux autour de perspectives partagées, ne constituent pas, à l'heure actuelle, un dispositif véritablement efficace, sauf exception. Le renforcement de l'échelon régional dans le domaine culturel se poursuivra-t-il? Toutes les régions seront-elles déterminés à augmenter leur effort en matière de dépenses culturelles. Le développement de l'intercommunalité culturelle permettra-t-il de déployer des moyens supplémentaires par rapport à ceux qui sont générés simplement par le transfert des charges des communes vers les établissements publics de coopération? Un rééquilibrage des moyens de l'État au profit des directions régionales des affaires culturelles sera-t-il confirmé et dans quelle proportion? Enfin, une meilleure identification des enjeux dont la culture est porteuse par d'autres services de collectivité, développement économique, urbanisme, affaires sociales, cette meilleure identification des enjeux pourra-t-elle dessiner une dynamique favorisant un élargissement du soutien qui peut apporter la culture? Ce sont toutes ces questions que pose Guy Saez dans son article. Et effectivement, ce sont toutes ces questions qui devront être reposées. Là encore, dans le cadre très particulier, hein, de l'après-crise que nous vivons, dans quelle mesure, encore une fois, les collectivités publiques, collectivités territoriales, voudront-elles, pourront-elles, dégager des moyens supplémentaires, pour relancer un secteur culturel qui, dans toutes les régions, dans tous les territoires, est actuellement, sinistré. Voilà, j'arrête ici cet enregistrement, et cette séance 8 sur le financement de la culture. Je complète donc ces enregistrements par un PowerPoint et également par des documents que je vais placer sur l'ENT, sur eCampus, notamment concernant le mécénat culturel qui est une autre source de financement importante et qui est en pleine croissance ces dernières années. Voilà, je vous remercie. La prochaine séance, la séance 9, sera consacrée à la question des professions artistiques et culturelles. Je parlerai de l'intermittence du spectacle notamment, mais aussi du profil sociologique des professionnels de la culture et de toutes les nouvelles problématiques autour eh bien de la composition des équipes qui travaillent dans les institutions culturelles. Est-ce que ces équipes doivent refléter, comment peuvent-elles refléter mieux qu'elles ne le font actuellement la diversité de la population? C'est une des questions que je poserai donc lors de cette prochaine séance, ce qui sera la séance 9 du cours M4 MA 004. Merci, bonne journée et à bientôt.